C'est alors qu'arriva une chose étrange, qui te dit comme la nature humaine est faible et insidieuse, la plante de l'hérésie. Car pour finir, l'évêque libéra Gérard, et l'accueillit chez lui à sa table, et il riait de ses lazzi, et il le gardait comme son bouffon. Mais pourquoi ? Je ne sais pas, ou je crains de le savoir. L'évêque était noble, et il n'aimait guère les marchands et les artisans de la ville. Il ne lui déplaisait sans doute pas trop que Gérard, avec ses prônes sur la pauvreté, parla contre eux, et passa de la demande d'aumône à la rapine. Mais enfin, le pape intervint. L'évêque revint à sa juste sévérité, et Gérard finit sur le bûcher comme hérétique impénitent. Ce siècle commençait. Et en quoi ces choses-là concernent-elles Fra Dolcino ? Elles le concernent, et ceci te dit comme l'hérésie survit à la destruction même des hérétiques. Ce Dolcino était le bâtard d'un prêtre, qui vivait dans le diocèse de Novare, dans cette partie-ci de l'Italie un peu plus au septentrion. Quelqu'un soutint qu'il naquit ailleurs dans la vallée de l'Ossola ou à Romagnano, mais peu importe. C'était un jeune homme d'intelligence aiguë, et son éducation en fit un lettré, mais il vola le prêtre qui s'occupait de lui et s'enfuit vers l'Orient dans la ville de Trente. Et là, il reprit la prédication de Gérard, de façon encore plus hérétique. Soutenant qu'il était l'unique vrai apôtre de Dieu et que tout devait être en commun dans l'amour, et qu'il était licite d'aller indifféremment avec toutes les femmes, raison pour laquelle personne ne pouvait se voir accusé de concubinat, même s'il allait avec l'épouse et avec la fille. C'est vraiment ce qu'il prêchait, ou il fut accusé de cela ? Parce que j'ai ouï dire que les spirituels aussi furent accusés de crime, comme ses frères de Montfaucon. « Des hoc satis !» interrompit brusquement Hubertin. « Ceux-là n'étaient plus frères. C'étaient des hérétiques. Et précisément souillés par Dolcino. » D'autre part, écoute, il suffit de savoir ce que Dolcino fit ensuite pour le définir comme malfaisant. Comment il était venu à la connaissance des doctrines des pseudo-apôtres, je n'en ai pas la moindre idée. Peut-être passa-t-il par Parme dans sa jeunesse, et entendit-il Gérard ? On sait qu'il garda contact dans la région de Bologne avec ses hérétiques après la mort de Segalelli. En outre, il est assuré qu'il commença sa prédication à Trente. Là, il séduisit une très belle jeune fille, et de famille noble, Marguerite, à moins que ce ne fût elle qui le séduisit, lui, comme Héloïse séduisit Abélard, car souviens-toi, c'est à travers la femme que le diable pénètre dans le cœur des hommes. À ce point-là, l'évêque de Trente le chasse de son diocèse. Mais désormais, Dolcino avait rassemblé plus de 1000 partisans. Et il entreprit une longue marche qui le ramena dans les contrées où il était né. Et tout au long du chemin, se joignit à lui d'autres ingénus, captivés par ses paroles, et peut-être beaucoup d'hérétiques vaudois qui habitaient les montagnes par où il passait se réunirent-ils aussi à lui, ou bien c'est lui qui voulait s'allier aux vaudois de ces terres du septentrion. Arrivé dans la région de Novare, Dolcino trouva une atmosphère favorable à sa révolte. Car les vassaux qui gouvernaient le pays de Gattinara au nom de l'évêque de Verceil avaient été chassés par la population, qui accueillit donc les bannis de Dolcino comme de bons alliés. Qu'avaient-ils fait, les vassaux de l'évêque ? Je l'ignore, et il ne me revient pas de le juger. Mais comme tu vois, l'hérésie se marie à la révolte contre les seigneurs, en de nombreux cas, et c'est ainsi que l'hérétique commence par prêcher « Madone pauvreté » et puis tombe en proie à toutes les tentations du pouvoir, de la guerre, de la violence. Il y avait une lutte entre familles dans la ville de Verceil, et les pseudo-apôtres en profitèrent, et ces familles se prévalurent du désordre occasionné par les pseudo-apôtres. Les seigneurs féodaux enrôlèrent des aventuriers pour rapiner les citadins, et les citadins demandaient la protection de l'évêque de Novare. Quelle histoire compliquée ! Mais Dolcino, dans quel camp se rangeait-il ? Je ne sais pas. Dans le sien propre, il s'était insinué dans toutes ces disputes, et en tirait occasion pour prêcher la lutte contre le bien d'autrui au nom de la pauvreté. Dolcino s'établit avec les siens, qui étaient maintenant 3000, sur un mont près de Novare, dit de la Paroi Chauve, où ils bâtirent Châtelet et Masure. Dolcino régnait sur toute cette foule d'hommes et de femmes qui vivaient dans la promiscuité la plus honteuse. De là-haut, il envoyait les missives à ses fidèles, où il exposait sa doctrine hérétique. Il disait et écrivait que leur idéal était la pauvreté et qu'il n'était lié par aucun lien d'obédience extérieure, et que lui, Dolcino, avait été mandaté par Dieu pour déceler les prophéties et comprendre les Écritures de l'Ancien et du Nouveau Testament. Et il appelait ministres du diable les clercs séculiers, prédicateurs et mineurs, et il déliait tout un chacun du devoir de leur obéir. Il distinguait quatre âges de la vie du peuple de Dieu. Le premier, celui de l'Ancien Testament, des patriarches et des prophètes avant la venue du Christ, où le mariage était bon car les gens devaient se multiplier. Le deuxième âge, celui du Christ et des apôtres, et ce fut l'époque de la sainteté et de la chasteté. Puis vint le troisième, où les souverains pontifes durent d'abord accepter les richesses terrestres pour pouvoir gouverner le peuple. Mais quand les hommes commencèrent à s'éloigner de l'amour de Dieu, vint Benoît qui parla contre toute possession temporelle. Lorsqu'ensuite même les moines de Benoît se remirent à accumuler des richesses, vinrent les frères de saint François et de saint Dominique, encore plus sévères que Benoît dans leur prédication contre la domination et la richesse terrestre. Enfin, maintenant que la vie de tant de prélats contredisait à nouveau tous ces bons préceptes, on était arrivé au terme du troisième âge, et il fallait se convertir aux enseignements des apôtres. Mais alors, Dolcino prêchait cela même qu'avaient prêché les franciscains, et parmi les franciscains justement les spirituels, et vous-même, père.
Oh oui, mais il en tirait un perfide syllogisme. Il disait que pour mettre fin à ce troisième âge de la corruption, il fallait que tous les clercs, les moines et les frères mourussent de mort très cruelle. Il disait que tous les prélats de l'Église, les clercs, les nonnes cloîtrées, les religieuses et les religieuses, et tous ceux qui font partie des ordres des prêcheurs et des minorites, des ermites et le pape Boniface en personne, auraient dû être exterminés par l'empereur élu par lui, Dolcino, à savoir Frédéric de Sicile.
Mais n'était-ce pas justement Frédéric qui accueillit en Sicile avec faveur les spirituels chassés de l'Ombrie? Et ne sont-ce pas les minorites qui demandent justement que l'empereur, même s'il s'agit maintenant de Louis, détruise le pouvoir temporel du pape et des cardinaux?
C'est le propre de l'hérésie ou de la folie que de transformer les pensées les plus droites et de les rétorquer contre la loi de Dieu et des hommes. Les minorites n'ont jamais demandé à l'empereur d'oxyre les autres prêtres.
Il se trompait. À présent, je le sais. Car lorsque, quelques mois après, le Bavarois instaura son propre ordre à Rome, Marsile et d'autres minorites firent aux religieux fidèles au pape précisément ce que Dolcino demandait qu'on fît. Ceci dit, je ne veux pas signifier que Dolcino était dans le vrai, mais plutôt que Marsile était dans l'erreur lui aussi. Je commençais à me demander, surtout à la suite de la discussion de l'après-midi avec Guillaume, comment il était possible aux simples qui suivaient Dolcino de distinguer entre les promesses des spirituels et la réalisation qu'en offrait Dolcino. Sa culpabilité ne résidait-elle pas dans la mise en pratique de ce que des hommes réputés orthodoxes avaient prêché à des fins purement mystiques? Ou peut-être là était la différence? La sainteté consistait à attendre que Dieu nous donnât ce que ses saints nous avaient promis sans chercher à l'obtenir par des moyens terrestres. À présent, je sais qu'il en est ainsi, et je sais pourquoi Dolcino était dans l'erreur. On ne doit pas transformer l'ordre des choses, même si l'on doit espérer avec ferveur en sa transformation. Mais ce soir-là, j'étais en proie à des pensées contradictoires. «
Enfin, me disait Hubertin, la marque de l'hérésie, tu la trouves toujours dans l'orgueil. » Par une seconde lettre, Dolcino, en l'an 1303, se nommait chef suprême de la congrégation apostolique et il nommait comme ses lieutenants la perfide Marguerite, une femme, et Longuin de Bergame, Frédéric de Novare, Albert Carantino et Valdéric de Breccia. Puis il commençait à divaguer sur une suite de papes futurs, deux bons, le premier et le dernier, deux mauvais, le second et le troisième. Le premier est Célestin, le second est Boniface VIII, dont les prophètes disent « L'orgueil de ton cœur t'a déshonoré, ô toi qui habites dans les failles des rochers ». Le troisième pape n'est pas nommé. Mais Jérémie aurait dit de lui « Voilà ce lion ». Et infamie, Dolcino reconnaissait le lion en Frédéric de Sicile. Le quatrième pape était encore inconnu à Dolcino, et il aurait dû être le pape saint, le pape angélique dont parlait l'abbé Joachim. Il aurait dû être élu par Dieu, et alors Dolcino et tous les siens, qui à ce moment-là étaient déjà 4000, auraient reçu ensemble la grâce de l'Esprit Saint, et l'Église en eût été renouvelée jusqu'à la fin du monde. Mais au cours des 3 années qui précédaient sa venue, tout le mal eût dû être consumé. Et c'est ce que chercha à faire Dolcino, en livrant des combats de partout. Le quatrième pape, et l'on voit ici comment le démon se joue de ses sujets, a été précisément Clément V qui prêcha la croisade contre Dolcino. Ce fut justice, car dans ses lettres, Dolcino soutenait désormais des théories inconciliables avec l'orthodoxie. Il affirma que l'Église romaine est une catin, qu'on ne doit pas obéissance aux prêtres, que dorénavant tout pouvoir spirituel passait à la secte des apôtres, que seuls les apôtres forment la nouvelle Église, que les apôtres peuvent annuler le mariage, que nul ne pourra être sauvé s'il ne fait partie de la secte, qu'aucun pape ne peut remettre les péchés, qu'on ne doit pas payer les dîmes, que la vie est plus parfaite sans vœux qu'avec des vœux, qu'une église consacrée ne vaut rien pour la prière, pas davantage qu'une écurie, et qu'on peut adorer Christ dans les bois et dans les églises indifféremment.